Est-ce qu'en écrivant Le Cœur Gros, t'espérais que des parents lisent ton roman?
J'espérais que tout le monde, en fait, mes parents, puis tous les parents, en fait, pour que tous les parents d'enfants, de jeunes enfants de cet âge, réalisent que des fois, c'est pas parce que nos parents, nos enfants nous disent « tout va bien » quand on leur demande « puis comment ça va aujourd'hui » que c'est vrai. Des fois, les enfants, ils savent pas comment exprimer leur mal-être, leurs sentiments, leur tristesse, même leur joie des fois. Puis ça vaut la peine qu'on prenne le temps de s'asseoir avec eux, puis qu'on les cuisine un petit peu. Tu sais, qu'on leur tire, mon père disait, tirer les verres du nez. Parce que des fois, si on se met à parler avec eux autres, on réalise que c'est pas toujours aussi rose leur vie qu'on pourrait se l'imaginer. La preuve, il y a combien de jeunes dont on entend parler du suicide, puis les parents disent « j'aurais jamais pensé, j'étais sûre qu'il allait bien, il y avait des amis, bon ». Des fois, tu sais, sous les apparences, il se cache des difficultés de vivre, puis ça vaut la peine qu'on en parle. Puis moi, j'ai toujours pensé que la parole, ça guérissait. Fait que...
Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des amis qui l'avaient lu. Est-ce que tu as donc un petit comité de lecture à toi avant d'envoyer à l'édition ou avant de publier ton livre?
Ben, en général, non. Écoute, je te dirais parce que je suis très, très bien suivie par mon éditeur. J'ai une très, très bonne, un très bon directeur littéraire, une bonne éditrice.
La gang de Québec-Amérique.
Oui, exactement. Ils sont tellement exceptionnels. Puis je veux pas non plus péter la ballonne à mon mari non plus, puis à ma fille, puis à mes proches pour qu'ils puissent le lire quand le livre arrive, tu sais. Mais dès que ma boîte de livres arrive, ce qui constitue en soi un des plus grands plaisirs de la vie pour un auteur, ça sonne à la porte, c'est le gars avec la casquette puis sa boîte de livres, là. Écoute, je te le dis, là, puis tu veux pas que personne soit là, c'est un plaisir que ça savoure tout seul. Puis là, tu ouvres ta boîte de livres, là, puis là, tu... Tu sais, tu fais trrrt avec les feuilles, là. Ça sent le livre neuf, là. Ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, j'ai pas de comité avant la parution, mais j'ai des gens à qui je m'empresse de donner les premières copies.
Est-ce qu'ils sont capables de dire la vérité, ces gens-là?
Oh oui, ouais. En général, oui. Puis c'est important pour un auteur. Bien sûr. C'est sûr qu'ils ne m'envoient pas des commentaires négatifs, tu sais, de façon méchante, là. Mais, tu sais, j'ai besoin de leur impression. C'est important pour moi de savoir ce qu'ils pensent. Puis ce qui est intéressant pour un auteur aussi, c'est qu'on écrit toujours un livre avec une certaine intention, une manière de toucher le lecteur. Et quand ils te disent que c'est ce qu'ils ont ressenti, hey, là, c'est bingo. T'es bien content d'avoir réussi ton coup.
C'est toi qui as choisi la couverture
de
ton roman.
Oui, c'est moi qui ai choisi la couverture.
C'est une toile.
Oui.
Pourquoi tu as voulu choisir cette toile-là en particulier?
Parce qu'elle est tellement touchante, cette
toile.
Pour
la montrer aux gens qui sont ici. À la radio, vous ne la verrez pas, mais elle est sur notre page Facebook.
Oui, alors c'est une toile qu'on peut voir au musée en Espagne, le Prado. Et cette petite fille-là a déjà existé. Elle était appelée souvent à la cour pour amuser les gens, pour qu'on puisse rire d'elle à cause de sa... Oui, exactement, à cause de son obésité. En fait, on sait maintenant qu'elle souffrait d'une maladie dont je me souviens pas du nom, mais d'une maladie génétique, là. Et cet enfant-là, on la faisait venir à la cour pour rire à ses dépens. Et c'était très la mode à cette époque-là de rire des gens qui étaient difformes ou différents physiquement.
Oui, il y avait les fous du village à l'époque.
Exactement. Et je me suis dit, dans le fond, ça n'a pas changé tant que ça. Parce qu'encore aujourd'hui, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Safia Nolin au dernier statut des Gémeaux, je pense.
Au gala de la Zé,
excuse-moi, je mélangeais dans mes galas. J'ai pris sa défense sur ma page Facebook parce que je trouvais... D'abord, je venais de sortir ce livre-là et ça correspondait exactement à ce que je décriais dans mon roman, à ce droit à la différence qu'on ne nous donne pas. On est prompt à rire des gens, à se moquer de leurs différences. Pour qui on se prend, tu sais? Et dans le fond, cet enfant-là représente exactement ce qui arrive encore de nos jours. C'est pour ça que je l'ai choisi. Puis je trouvais qu'elle était dérangeante. Je trouvais qu'on voit le regard de cet enfant-là est tellement triste, elle est tellement seule. Je me disais, quand on la voit en librairie, il y a quelque chose qui nous rentre dans le cœur directement.
Elle est même en amour, Ariel.
Oui.
Et ça marche, ça finit pas vraiment bien.
Ben,
cette
pas histoire-là. Vraiment, honnêtement. Tu sais, puis est amoureuse d'un ami de son frère, qui est un des plus beaux gars de l'école. Tu sais, le beau petit blond avec la frange de blé ici, là. C'est bien habillé, tu sais, habillé en vêtements à mode. Bon. Elle trouve tellement de son goût, puis tu sais, elle espère qu'il puisse jeter un regard amoureux sur elle, puis c'est pas ça qui arrive. Alors, c'est...
Il se sert même d'elle. Hein? Il se sert même d'elle.
Il se sert même d'elle, exactement. On peut pas trop... On va aller plus loin dans
pas dévoiler de punch. Punch,
ouais. Exactement, mais oui, mais en même temps, il est lui-même abusé par ses amis, au fond. Si on comprend
oui,
bien l'histoire, il est l'objet de on se moque de lui, au fond. Fait qu'il y a dans ce roman-là toute cette méchanceté-là qu'on retrouve chez les enfants. On a, tu sais, quand on était petit, là, on n'était pas fin avec les autres, là. Tu sais, il y en avait des pires que d'autres, mais on avait, tu sais, on se permettait toutes sortes de commentaires. On faisait pleurer les autres. Moi, j'en ai pleuré une shot, en tout cas, tu sais, de me faire sentir jugée, puis de... Fait que c'est ça. Alors, cet enfant-là, elle a vécu ça toute seule, puis je l'ai mis sur la page couverture, puis avec son regard triste qui nous rentre dedans. Ça, je trouvais ça important. Alors, elle, je ne sais pas si elle a eu un amoureux dans sa vie, mais j'espère qu'elle a eu quelqu'un pour l'aimer puis lui dire qu'elle avait de la valeur, même si son apparence ne correspondait pas au canon de l'époque.
Pourrais-tu écrire une suite, étant donné que la fin est ouverte, parce que Ariel, on pourrait la retrouver 10 ans plus tard.
C'est ce que ma mère m'a dit. Elle dit, mon Dieu, tu devrais écrire une suite. Mais je ne sais pas si je veux écrire une suite. Je ne sais pas si je veux la laisser s'en aller et lui faire assez confiance pour qu'elle se trouve son chemin elle-même. Je ne sais pas. Mais peut-être, tu sais. Je ne dis pas non. C'est possible. Mais ça pourrait être une option.
C'est ton nouveau métier, celui d'auteur, et on pourrait penser, parce qu'à la vitesse que les romans sortent, que tu écris rapidement. Et je lisais des entrevues sur toi et tu dis que tu es paresseuse.
Ben écoute, regarde, quand on écrit, là, pour ceux que ça intéresse, là, quand on écrit, il y a trois phases. La première phase, tu penses que tu as tout le temps du monde, fait que quand ta chum t'appelle pour aller luncher, tu y vas, OK? Puis bon, puis tu pousses ton roman, tu sais, tu pousses ton histoire, puis là, il faut que tu travailles un peu dur parce qu'il faut vraiment que tu installes le ton, le souffle, les personnages et tout ça. Après ça, tu as une espèce de plateau. Là, tu t'ennuies, tu dis, Colin, je vois-tu le finir, ce roman-là? Tu es rendu à la page 100, mettons. M'as-tu fini? Puis là, il faut que tu conserves ton souffle aussi. Alors là, tu te relis du début pour être sûr que dans la continuation, ça va bien. Et après ça, il y a la troisième phase. Là, la phase où ils t'ont donné un deadline. Ouais, t'as tout compris. Garde bien, ça paraît que t'écris, toi, garde bien. Ils t'ont donné un deadline, toi. Fait que là, faut que t'arrives. Et là, là, ça devient tellement souffrant à écrire. Je peux pas t'expliquer à quel point c'est difficile. Tu te réveilles la nuit en prenant des notes. J'ai des enregistreuses partout dans toutes mes sacoches. C'est épouvantable comment c'est difficile pour moi. Et j'écris lentement. Les gens pensent des fois que parce qu'un texte est facile à lire, il a été facile à écrire. Ça arrive jamais que tu écris une phrase là, puis qu'elle va rester de même jusqu'à la fin. Là. Tu réécris tout, puis tu n'es pas sûr, puis tu doutes de toi, puis tu te relis, puis tu appelles ton éditeur quasiment. Tu envoies des courriels le dimanche à ton éditeur, tu sais, parce que tu capotes sur ce que tu viens d'écrire. Tu n'es pas sûr si c'est bon. Puis c'est très laborieux écrire. Très, 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 très laborieux. Puis moi, j'écris dans ma cuisine, même si j'ai un bureau. Je ne sais pas ce que c'est cette idée-là de mettre là dans la cuisine. Mais en tout cas, j'écris là. Puis, je suis pas confortable. Fait que quand j'ai eu fini d'écrire ce livre-là, j'avais les deux épaules complètement bloquées. Je me suis pas aidé ben. Mais c'est difficile d'écrire. C'est un labeur. C'est pas simple. Puis, plus tu avances dans le roman, plus c'est dur.
Est-ce qu'il est difficile à laisser aller une fois qu'il est terminé? Est-ce que c'est difficile de dire, maintenant, ça va, je suis satisfaite? Ça appartient aux gens, cette histoire-là.
Bien, il faut le faire, parce que sinon...
Bien, il y a un deadline déjà, fait qu'on est obligé de le faire.
Exactement, mais tu as aussi... Ce qui nous aide beaucoup comme auteur, c'est d'avoir des très bons directeurs littéraires qui sont capables de dire, « Nien, ça, je peaufinerais ça, ou ça, j'irais plus fort là-dedans, ou moins fort. Ou... » Fait qu'en général, quand on est 4-5 à se dire, plus les correctrices, plus à se dire, « Bon, OK, je pense qu'on est arrivé à un point, c'est correct. » Bien, j'ai assez confiance pour le laisser aller. Mais... C'est comme un bébé, tu sais. C'est comme un enfant. On a mis tellement de nous-mêmes dans un roman, même quand c'est une fiction, que le laisser aller, le livre, là, faut se parler.
Tu as bac en études françaises.
Oui.
Est-ce que tu avais ce souhait-là d'un jour écrire?
J'ai retrouvé un vieux... je viens de déménager récemment, puis j'ai retrouvé un vieil article de journal sur moi, mannequin. Et on me demandait comment je voyais mon avenir. Et je disais, j'aimerais écrire un livre. Je suis sûre qu'il y a une histoire en moi. j'ai toujours voulu écrire. J'étais enfant, puis j'écrivais des... Puis je les illustrais moi-même. C'était pas très beau, là, mais ma mère avait gardé...
T'avais des récits, ouais, t'écrivais ça quand t'étais petite, des récits.
Oui, exactement, des petits livres, j'ai broché, tu sais. Puis, mais j'avais ce goût-là. Les mots m'ont toujours fasciné. Je trouve que raconter une histoire ou se raconter avec les mots, c'est pour moi, c'est un... C'est difficile d'écrire, mais c'est une grande satisfaction d'avoir écrit et d'être content de ce qu'on a écrit.
Revois-tu, quand tu reçois ta boîte de livres dont tu parlais tout à l'heure, oui. Revois-tu la petite fille qui a tant rêvé?
Oh mon Dieu, oui! Écoute, et si je n'avais pas écrit, je pense que j'aurais raté ma vie. J'aurais pas raté ma vie sur tous les plans, mais je réalise aujourd'hui que c'est ce que je veux faire le plus et c'est à quoi je vais occuper le restant de ma vie. Écrire. J'aime ça. Puis, pourtant, j'ai eu un métier public comme toi. J'adore rencontrer les gens, mais il n'y a rien qui bat être toute seule dans ma cuisine en pantoufles, en pantalon mou, puis d'écrire tranquille, sans personne pour m'interrompre. Il y a quelque chose dans le côté solitaire de l'écriture qui me plaît beaucoup.
Mais après, il y a les salons du livre.
Oh, ça aussi, c'est le fun.
Au départ, quand tu commences, les gens sont curieux parce que c'est Dominique Bertrand qu'ils ont connu à la télé, qu'ils ont connu comme mannequin.
Personnalité publique,
personnalité connue. Maintenant, quand on a plusieurs romans, il y a des fidèles de Dominique Bertrand. Ça fait quoi, ça, de voir qu'il y a des gens qui suivent ta carrière d'auteur qui ne t'aimaient peut-être pas comme animatrice en plus?
Ça me fait tellement plaisir. Écoute, c'est pour moi une consécration. Quand les gens me disent « j'ai lu votre premier livre, puis j'ai lu l'autre », ou j'ai fait récemment pour le Salon du livre de Trois-Rivières, une entrevue en public comme ça ici, avec la directrice, en fait la présidente du Salon du livre, qui m'a interviewée. Et il y avait dans la salle des gens qui connaissaient mes livres par cœur, tu sais, qui connaissaient vraiment les personnages. Puis ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, bon, ben écoute, il y a quelque chose dans mon talent d'écriture qui touche les gens, puis dans les sujets que j'aborde qui touchent les gens, au-delà de l'image publique, tu sais. Quand ils me lisent, ils me voient pas, hein. C'est une histoire, je les emmène dans mon imaginaire, puis ça marche. Fait que ça me fait vraiment plaisir.
C'est touchant, ça? Parce qu'évidemment, tu l'as fait toute seule, enfermée à la maison, et tu sais pas s'il y aura une résonance des gens. C'est une réponse très tard, contrairement à la télé où il y a des codes d'écoute, par exemple, où on sait si les gens aiment ou pas.
Ou même la radio en direct. Oui, des fois, il y a des lignes ouvertes. J'ai fait de la radio, il y avait une ligne ouverte. On le sait tout de suite si ça marche. Non, là, il y a un délai, puis pour une fille impatiente comme moi, parce que c'est pas ma plus grande qualité, la patience, je t'avoue. Ça, c'est assez difficile à supporter. Mais quand je commence à voir rentrer les courriels et tout ça, les gens qui me passent leurs commentaires, parce qu'ils peuvent m'envoyer des courriels, mon adresse courriel est à la fin de chacun des livres, ça, c'est très plaisant pour un auteur. Le contact avec les lecteurs, c'est formidable.
Pourquoi tu voulais laisser ton courriel? Pour ça? Pour avoir la réponse des lecteurs?
Oui, pour pouvoir échanger avec eux. En fait, j'ai commencé ça quand j'ai sorti Démaquillée, où c'était en fait une autobiographie, puis que j'abordais des questions comme la dépression, j'abordais des questions comme la monoparentalité, tu sais, bon, le deuil. C'est incroyable le nombre de courriels que j'ai reçus de gens qui m'ont dit que ça leur avait fait tellement de bien de pouvoir constater que je m'en étais sortie, parce qu'eux autres, ils étaient dans le pire au moment où ils m'ont lu, puis ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls à avoir vécu ça, puis qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. J'ai rencontré une fille, parce que moi, amoureusement, j'ai pas toujours eu la touche. J'ai toujours rencontré, pas maintenant parce que j'ai marié un gars super extraordinaire, mais avant de le rencontrer, lui, j'ai rencontré une trolley de Tarlan, là, je peux te le dire. assez de zouf pas fin, et franchement, bon. Et un jour, j'ai rencontré justement dans un salon du livre une fille qui est venue me voir avec son fiancé. Puis elle m'a dit, moi, j'avais le même genre de parcours que vous. Je rencontrais toujours des pas fins. Puis elle a dit, si j'avais pas lu votre livre, j'aurais pas rencontré ce gars-là. Puis il venait de se fiancer, puis elle était super heureuse avec lui. Puis je me suis dit, coudon, quand t'entends ça, tu dis, j'ai pas écrit mon livre pour rien. C'est toujours donner un sens, finalement, tu sais. Moi, c'est important pour moi que ce que je raconte ait un sens, donne un sens à quelque chose. Que ça soit pas juste une histoire légère. Je veux que ça porte les gens à réfléchir, à ressentir quelque chose. Pour moi, une bonne lecture, c'est une lecture qui me touche, qui m'émeut, qui me fait vibrer dans quelque chose. Fait que c'est ce que j'essaie de donner au lecteur.